propose de commencer. Vous m'entendez bien? Oui. Enchantée, merci, merci d'être si nombreux. Je m'appelle Emeline Fazolato, je travaille pour les Nouveaux Géants en tant que responsable d'offre de formation. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour du sujet « Comment mettre son métier au service de la transition écologique ?» Et j'ai avec moi du coup Paul Chalabresse au milieu, qui est coordinateur du mouvement Les Collectifs. Vinciane Martin, qui est chargée de programme emploi et formation au sein du Shift Project. Et Ambroise Collomb, qui est directeur général des Nouveaux Géants. Alors, plutôt que de présenter leurs organisations, je vous propose de le faire directement, parce que vous le ferez mieux que moi. Et donc, Vincent, si tu veux commencer.
Merci, Emeline. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je travaille en effet au Shift Project. Sans doute quelques-uns d'entre vous êtes familiers du Shift Project, mais je vais quand même leur présenter. On est un think tank. Donc formellement, on est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition bas carbone. Donc globalement, on produit des analyses. On va ensuite porter des recommandations et les résultats auprès des acteurs qu'on veut influencer. Et notre prisme de départ, c'est les enjeux climat et les enjeux énergie. Avec du côté du climat, un enjeu de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour en fait aller dans le sens de ce qu'on s'est collectivement engagé à faire, à savoir limiter le changement climatique, si possible en dessous de 1,5 ou 2 degrés. Et d'autre part, on travaille sur l'enjeu des ressources énergétiques, et notamment sur les questions de raréfaction des ressources fossiles, qui vont en fait limiter nos émissions de gaz à effet de serre à un moment, quoi qu'il en soit.
Vas-y, je vais aller.
Alors, on teste le matos. Moi, c'est Paul, je travaille pour Les Collectifs. Les Collectifs, faut déjà repartir ce que c'est sur un collectif. Un collectif, c'est un groupe de salariés qui réfléchit et mène des actions en interne dans une entreprise pour la transformer d'un point de vue écologique. C'est des groupes de salariés qui peuvent être 5 comme ils peuvent être 1500, ça dépend des entreprises. Et nous, on est un réseau qui les fédère. Pourquoi on fait ça? C'est parce que les collectifs, ils sont plus forts s'ils peuvent se parler, s'ils peuvent se connaître. La plupart des collectifs n'ont pas de communication et nous, on permet de les mettre en réseau. C'est pour ça que je vais pouvoir citer quelques exemples. Et ces groupements informels de salariés, ils mènent des actions pour la plupart ambitieuses pour transformer leur entreprise de l'intérieur. Et c'est en tout cas leur ambition.
Merci. Et nous, les Nouveaux Géants, on est un organisme de formation sur le thème de la transition écologique. Et précisément, on s'intéresse du coup à ce dont on va parler là, à la transition écologique des métiers. Donc on crée des parcours qui sont spécialisés par métier. Qu'est-ce que ça veut dire la transition écologique de l'IT, de la communication, de la finance? L'idée, c'est d'aller au-delà de la sensibilisation et se mettre vraiment dans le concret. Donc on accompagne des entreprises sur ce thème-là en essayant de faire travailler les gens à se former sur des projets concrets de l'entreprise, pas des études de cas lointaines ou fictives, ou de la vidéo, mais vraiment être vraiment sur du concret. Voilà.
Merci. Je me dis qu'on peut peut-être utiliser le deuxième micro.
Je crois qu'il est pour la salle.
D'accord, mais en attendant. Bon, on ne sait pas.
Oui, on peut. On me dit dans l'oreillette qu'on peut.
Dans tous les cas, je laisserai introduire pourquoi, donner plus d'éléments sur pourquoi cette conférence. Juste pour cadrer le sujet, quand on parle de mettre son métier au service de la transition écologique, il y a plusieurs types de métiers. Et donc, on va parler soit de destruction et de création d'emplois, notamment tous les nouveaux métiers, les métiers verts, ou de transformation des métiers existants. Et donc, les métiers dont le cœur du métier ne va pas changer, mais qui vont intégrer des nouvelles missions plus écologiques. Et donc, nous, on s'intéresse plutôt, au vu des profils des intervenants, on s'intéresse plutôt à cette seconde partie de métier, donc les métiers qui se transforment. Et cette conférence ne sort pas non plus de nulle part, puisqu'on mène une étude avec pour partenaires notamment les Shift Project et les collectifs, et d'autres comme la CCI de France et les Eco et Make Sense, qui a pour but d'accompagner les acteurs dans l'entreprise qui pensent l'évolution des métiers en mettant en lumière différents rationnels de priorisation de la transformation des métiers dans l'entreprise et en proposant une vision prospective de certaines grandes familles de métiers. Donc, quelles sont les nouvelles missions, les nouvelles méthodes à mettre en œuvre dans les métiers et que ça signifie en termes de compétences et de connaissances. Donc, cette table ronde, elle va avoir lieu en deux parties, 30 minutes de table ronde et puis 10 minutes de questions, si ça vous va. Mais après, si jamais vous avez des questions vraiment urgentes, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on vous entendra même sans micro, donc c'est OK. Donc pour commencer, chacun d'entre vous accompagne l'évolution des métiers et des missions des collaborateurs dans le cadre de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, pour vous, c'est important de faire évoluer les métiers? Peut-être Ambroise, si tu veux commencer.
Ouais. Je vais démarrer avec une étude que j'aime bien, justement, du côté de Carbone 4, ça s'appelle Faire sa part. Et c'est une étude qui dit comment on peut contribuer à l'échelle individuelle sur la transition écologique. Et le résultat de l'étude, c'est que si on est un super-héros des éco-gestes, sur l'avion, la viande, etc., on peut contribuer à 25% des accords de Paris, ce qui est significatif. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 75% qui est dans la main de l'État et des organisations. Et nous, notre lecture chez Nouveaux Géants, c'est de dire l'État et les organisations, c'est simplement des gens qui font leur job. Et donc, c'est peut-être un petit raccourci, mais si on arrive à... On peut se dire qu'en fait, 75% de l'action individuelle, c'est changer son métier. Et en plus, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant, parce que c'est pas par la contrainte, mais c'est vraiment par des nouveaux projets, des nouvelles compétences. On pense qu'il y a ça. La deuxième raison, si je peux en faire une deuxième, c'est qu'il y a un enjeu de dissonance qui est de plus en plus fort dans les dissonances cognitives, dans les entreprises, puisque pour beaucoup d'entreprises maintenant, il y a eu des mécanismes de sensibilisation, comme la fresque du climat de plus d'un million de personnes. Et c'est génial, moi je suis animateur de la fresque du climat, c'est des super outils, mais ça laisse quand même des dégâts parfois. Quand on a compris le problème à ce point-là, ça peut être un peu douloureux. Et donc si derrière on n'a pas le cap de concrètement qu'est-ce que je fais dans mon métier de tous les jours où j'y passe le plus de temps, c'est difficile à vivre pour certains. Et c'est là où on a les grandes démissions, etc. Et donc nous on croit que c'est plus intéressant d'agir, là on a un levier d'action direct. Et donc dans son métier.
Paul, ouais, si tu veux prendre la suite.
Okay. Notre vision, c'est qu'il va falloir respecter les limites planétaires, et dans un monde économique qui ne les respecte pas, en tout cas pas encore, il va falloir transformer les entreprises. Nous, on pense que transformer les entreprises à l'intérieur, ça a de l'avenir, et en particulier, les membres de collectifs, ils se posent la question de la transformation et de l'évolution de leur métier. Il va falloir que les métiers se transforment, mais c'est aussi, et c'est la seconde raison, une préoccupation réelle des gens sur le terrain. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Pour citer un exemple, un collectif du secteur du conseil, qui fait partie de notre réseau, a créé une convention citoyenne interne qui, en plus de vouloir faire évoluer les pratiques internes de la boîte, l'empreinte carbone du site, etc., veut révolutionner le métier de consultant et changer donc ce que fait réellement le métier principal de cette entreprise. Plus largement, nous, on a un certain nombre de collectifs dans les secteurs industriels, et il n'échappe pas à cette logique. Un technicien réparateur dans une usine peut à la fois réfléchir à la finalité du produit de l'usine, par exemple en changeant de client, mais il peut aussi réfléchir à la manière dont il peut faire son métier et pourquoi pas former les autres. Nous, on a ce type de cas de figure. Chez les collectifs, en tant que réseau, on agrège tout ce qui peut se faire dans le réseau et on essaie de parler de bonnes pratiques aux autres collectifs pour faire en sorte qu'ils soient plus forts ensemble. Et l'évolution des métiers, pour nous, c'est un vrai facteur clé de succès d'un collectif, parce qu'il va pouvoir parler à toute l'entreprise et faire avancer son entreprise de manière constructive en proposant des actions. Et c'est tout le cœur de l'activité d'un collectif.
Merci. Alors, nous, on est du coup beaucoup moins terrain. On se situe vraiment plus en amont de tout ça et avec une vision plus... peut-être plus théorique, en fait, plus macro. La manière dont on a commencé à s'intéresser à la transformation des métiers à proprement parler, en fait, c'était par la question de l'emploi. Et on a mené un grand travail dans les dernières années qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, de manière tout à fait humble et modeste, dans lequel, sur une quinzaine de secteurs, on a proposé des pistes pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Dans le cadre de ce travail-là, on a travaillé sur ce que ça voulait dire en termes d'emploi. Et c'est ce qu'Ameline disait tout à l'heure, où est-ce qu'il y aura des... Alors nous, on ne parle pas de création d'emploi, en fait, on parle de besoin d'emploi. Dans quel secteur il y aura besoin de davantage de personnes? Et dans quel secteur il y aura des pertes d'emploi? Et donc on a travaillé sur cette question d'emploi, mais aussi, fatalement, d'évolution des compétences qui vont avec. Et donc, parmi les grandes conclusions de ces travaux, c'est qu'il y aura des évolutions très fortes, aussi bien en termes de volume d'emploi qu'en termes de volume de compétences, enfin qu'en termes de compétences, donc en termes de qualité ou de contenu des métiers. Donc c'est là qu'on atterrit sur les métiers. Et l'un peut aller avec l'autre. Par exemple, sur la question du bâtiment, il y aura des grands volumes d'emploi parce qu'il va falloir beaucoup de monde pour rénover massivement. il y aura aussi des pertes d'emplois en réalité. Si on veut construire moins de neuf, en fait, on a besoin de faire moins de constructions neuves, d'aller vers une trajectoire où on réduit les constructions neuves par an. Et donc, voilà, il y a des questions de volume d'emploi à la hausse et à la baisse qui se posent pour la transition, mais il y a aussi des questions de compétences. Typiquement, pour rénover de manière efficace, de manière performante, des logements, des bâtiments, il y a besoin de nouvelles compétences. De nouvelles compétences techniques, mais aussi de capacités entre les corps d'État à bien travailler ensemble, par exemple. Ça, c'est des compétences aussi. Pour travailler avec des nouveaux matériaux, par exemple des matériaux biosourcés, pour avoir utilisé moins de ciment globalement, il y a aussi besoin de nouvelles compétences. Et donc, il y a cette évolution des métiers qui a lieu en fait dans beaucoup de secteurs, et aussi dans les secteurs qui ne sont pas impactés en termes de volume. Et typiquement, dans le plan de transformation de l'économie française, on a travaillé sur la décarbonation du secteur de la santé, du secteur de la culture, qui ne sont souvent pas identifiés comme des secteurs au cœur de la décarbonation, et qui pourtant s'appuient sur des besoins en alimentation, beaucoup de transport, des industries aussi manufacturières, qui sont consommatrices d'énergie, de ressources et qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Et en fait, même dans ces secteurs-là, il y aura des transformations importantes. Par exemple, pour le spectacle vivant dans la culture, une des préconisations, c'est de faire moins de grands événements, mais davantage de plus petits événements pour justement limiter les déplacements. Et donc ça veut dire que pour le métier de tourneur, par exemple, qui organise des tournées de spectacles, en fait, c'est penser radicalement différent son travail. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques exemples dans des secteurs très très différents, mais il y aura ces transformations de métiers en fait dans énormément de secteurs, qu'elles soient au cœur du secteur ou qu'elles soient un peu plus à la marge. Et ensuite, j'ai le temps. Donc ça, c'est une des manières dont on a pris le sujet, et une autre des manières dont on a pris le sujet de la transformation des métiers, en fait, c'est par le biais de l'enseignement. On avait commencé à ces travaux-là avant justement les travaux dont je viens de vous parler sur l'emploi, en partant du principe que on avait besoin de faire évoluer les formations du supérieur parce que tout un chacun doit être formé aux enjeux énergie et climat en général. Et donc tout ça, ça se décline aussi dans les filières de spécialisation dans l'enseignement supérieur. Et on a travaillé notamment sur les besoins de transformation des formations d'ingénieurs en gestion et en finance, dans lesquelles il y a en tout cas les évolutions quantitatives d'emplois sont peut-être pas fondamentales, mais en termes de formation, donc en termes d'évolution de compétences, il y a des choses très importantes. Évidemment, je le mentionne parce qu'on en avait parlé dans la préparation de cette table ronde, en fait, tout ça, toutes ces transformations de métiers, elles se situent seulement dans la perspective où on se fixe comme objectif soit de décarboner, soit de mener plus largement une transition écologique. Mais voilà, le niveau de transformation des métiers dont on parle, il se situe vraiment dans une perspective où on a décidé d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Merci. Donc, tu as déjà commencé à entrer un peu dans le concret, de dire à quoi est-ce que ça ressemble les métiers de demain, si on... J'aime pas les termes comme ça, mais bon, on va les prendre. Peut-être, du coup, est-ce qu'on peut essayer de visualiser ensemble ce que ça signifie de mettre son service au service de la transition écologique? Du coup, Bastien, tu as commencé à parler de l'étude, notamment ClimatSup Business, du Shift, qui visait à faire... Vous avez fait des préconisations de transformation des syllabus des métiers, des établissements de gestion. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les transformations majeures qui atteignent les métiers de la gestion, s'il te plaît?
Avec plaisir. Donc, comme je le disais donc à l'instant, on a commencé à travailler sur la transformation de l'enseignement supérieur en général. Et ensuite, on a produit des rapports en concertation avec les acteurs du supérieur sur les formations donc, d'ingénieurs de gestion de finances. Et là, l'étude ClimatSup Business formait les acteurs de l'économie de demain. Et c'est plus particulièrement sur les formations en gestion. Et en fait, notre point de départ pour dire à quel point ces transformations-là doivent évoluer, c'est de dire que pour mener les transformations qu'on a besoin de mener pour la transition, il va falloir transformer toutes les entreprises, transformer leur mode de fonctionnement, et donc pour ça, il faut transformer tous les métiers de la gestion. Et on a travaillé donc sur des socles de formation pour tous les étudiants, mais aussi sur ce que ça voulait dire en termes de déclinaison, alors soit par discipline, soit par métier, par spécialisation, ce qui revient à peu près à la même chose dans les formations en gestion. Et pour vous donner quelques exemples, en fait, on a travaillé notamment sur les métiers du marketing, où on dit, une des transformations dans les métiers du marketing, c'est qu'il va falloir rendre la sobriété désirable. Parce qu'on va avoir besoin de sobriété pour décarboner. Et donc, sobriété, c'est-à-dire produire moins, globalement. Produire moins, et donc, pour les entreprises ou pour les individus, ça peut venir à consommer moins ou consommer différemment. Et en fait, ces transformations de la consommation, elles sont au cœur du métier du marketing. Et donc, c'est les marketeurs, pour le coup, de demain, parce que pour le moment, ils ne le font pas beaucoup, d'apporter ces transformations et de rendre tout ça désirable et de rendre ces changements de comportement de consommation désirables. Un autre exemple, moins dans les imaginaires, du côté du contrôle de gestion, parmi les compétences dont on dit qu'il faut que tous les étudiants, en fait, que tous les diplômés en gestion, qu'il faut que tous les diplômés en gestion aient acquises, il y a le fait de développer un esprit critique. Et typiquement, quand on fait du contrôle de gestion ou quand on fait de la comptabilité, il y a un enjeu à identifier ce qu'on utilise comme outil et la portée politique des outils de comptabilité, de contrôle de gestion. Pourquoi en fait on utilise des métriques financières, pourquoi on les caractérise notamment du point de vue des actionnaires, alors qu'en fait on pourrait le faire différemment. Tout ça implique une vision de l'entreprise et donc une vision politique du rôle de l'entreprise dans la société. Et donc tout ça, faut en être conscient. Même si là on n'est pas sur des transformations très pratiques au quotidien, ça fait partie aussi des transformations de compétences qu'il faut acquérir selon nous. Et un dernier exemple, qui est un petit peu au cœur de la transformation vraiment, c'est pour les métiers de la stratégie. En fait, dans les formations en gestion, il y a des étudiants qui se spécialisent en stratégie. Et là, il va falloir transformer complètement des business plans pour les rendre compatibles avec des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des objectifs de réduction d'impact sur la biodiversité, sur le vivant. Et tout ça, c'est des compétences très techniques, pour le coup, qu'actuellement, les personnes qui sont en charge de la stratégie des entreprises, alors peut-être pas c'est les personnes qui ont été formées par les nouveaux géants, mais que les personnes qui sont en charge des stratégies d'entreprise n'ont pas. Et en fait, se retrouvent confrontées à des objectifs fixés par les entreprises, mais en fait avec des stratégies qui n'arrivent pas à se mettre en accord avec ça. Donc voilà, c'était pour donner quelques exemples de la manière dont on a approché ce sujet-là, en partant du prisme, pour le coup, de l'enseignement supérieur et de la formation initiale.
Merci. Pendant la préparation, Paul, tu as indiqué que certains membres des collectifs essayaient de transformer leur métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? Quel métier ils exercent ? Qu'est-ce qu'ils essaient de mettre en place dans leur métier ?
Ouais. Nous, les collectifs, on fédère plus de 200 entreprises dans notre réseau. Et donc, on représente un certain nombre de métiers. Ces métiers, c'est des membres de collectifs qui donc réfléchissent aux actions qu'ils veulent mener dans leur entreprise, mais aussi, et c'est leur conviction personnelle, à la transformation de leur propre métier. Pour certains, ça va être une trajectoire individuelle. Ils vont réfléchir à comment faire évoluer leur poste ou en changer. Mais souvent, c'est une réflexion collective, dans le cadre du collectif. Un énergéticien va pouvoir réfléchir à la manière d'intégrer une réduction de l'empreinte carbone et la sobriété dans son travail. Un consultant va pouvoir réfléchir à comment intégrer systématiquement les enjeux de la transition écologique et sociale à son travail. Quelqu'un qui travaille dans la maintenance industrielle va réfléchir à intégrer l'économie circulaire, en tout cas ses concepts, dans son travail, et voir dans le réseau, et on a le cas, à changer son poste en ce sens. Un collectif, en fait, c'est un groupement informel de salariés qui veut s'engager dans le travail, et c'est une nouvelle façon de s'engager dans le travail. Et quand on arrive à ce stade de création d'un collectif ou un collectif plus mature, on cherche toutes les manières et tous les moyens d'avoir des idées en intelligence collective sur la manière de transformer son entreprise. Et très vite, un collectif qui a réussi à représenter tous les métiers de son entreprise va réussir à avoir plus d'idées, plus de moyens d'action et pour transformer son entreprise à l'intérieur et toucher finalement ce qui a le plus d'impact, le modèle économique de l'entreprise et plus largement sa stratégie. Et nous, chez les collectifs, on estime qu'un facteur clé de succès, encore une fois, d'un collectif, c'est d'arriver à représenter toute l'entreprise. En particulier, moi, c'est une des premières questions que je pose quand je rencontre un collectif. Quels métiers sont représentés par rapport à tous les métiers d'entreprise dans le collectif, à proprement parler? On a des collectifs qui représentent les métiers principaux de l'entreprise, mais qui travaillent à essayer d'intégrer tous les autres métiers, tous les autres sites plus largement. Et c'est pour nous quelque chose de très important, parce que le collectif sera plus représentatif, plus crédible, mais aussi pourra mener des actions qui sont plus en phase avec le cœur de métier de l'entreprise.
Merci. Et Ambroise, du coup, j'ai parlé rapidement de l'étude en introduction. qu'on mène donc, sur l'évolution des métiers. Est-ce que tu veux partager certaines tendances? Est-ce que tu as des exemples d'évolution de métiers à partager?
Oui, concrètement, en fait, le message est simple. Tous les métiers vont changer, vous l'avez compris. Mais tous les métiers n'ont pas le même impact. Et du coup, en fonction des gens qu'on interroge sur le sujet, les gens ne priorisent pas de la même manière et ne regardent pas le sujet de la même manière. Et nous, finalement, on va apparaître trois types de métiers, grosso modo. Il y a des métiers à impact direct, tous les métiers du produit. Dans le retail, 80% du bilan carbone, c'est le produit. Donc, on va essayer d'éco-concevoir, de diminuer l'impact du produit, de penser les produits différemment. Donc là, on a un impact direct, on est vraiment dans le bilan carbone ou dans les enjeux de biodiversité. Il y a des métiers qu'on impacte indirect. On a parlé du contrôle de gestion, par exemple, et qui, au sein de l'entreprise, par contre, ont un impact énorme parce que si on change les valeurs que l'équipe performance, l'équipe finance regarde et qu'on change du coup les grilles de décision d'achat et d'investissement en mettant des multicritères, on va avoir des toutes nouvelles formes de décisions qui peuvent émerger au sein de l'organisation. Si le contrôle de gestion se saisit de nouvelles valeurs, en fait, c'est un changement total de l'entreprise. Et ensuite, on a troisième catégorie, tu en as parlé aussi, qui est les métiers à impact systémique. Et donc, par exemple, les métiers de la communication là-dedans, parce qu'ils vont avoir, comme tu l'as très bien dit, le rôle de sortir des nouveaux imaginaires, peuvent avoir un impact systémique. Et ce qui parfois est dommage, c'est que c'est de ne pas regarder l'ensemble des métiers, soit parce qu'on est ultra court terme, il faut faire descendre le bilan carbone, soit parce qu'on n'a pas forcément compris la s'estimer interne ou externe et l'impact que les métiers ont dessus. Et pour donner des exemples, l'équipe produit, j'en ai un peu parlé, mais pour donner un autre exemple, on peut parler de l'équipe data. Les datas dans l'entreprise, c'est plus un enjeu nouveau, c'est un enjeu essentiel. Et les données extra-financières, aujourd'hui on sait mal collecter, on sait mal gérer, c'est peut-être un enjeu que peut venir appuyer une équipe data ou des gens qui sont solides sur ces sujets-là. Et donc là, on est dans de l'impact indirect. Parce que ça va, c'est systémique au sein de l'entreprise, pas forcément dehors, même s'il peut y avoir de la systémie en dehors, parce qu'il y a des pratiques qui sont partagées, il y a des collectifs, il y a des choses comme ça. Et peut-être, il y a un dernier enjeu, c'est l'enjeu RH, c'est que, évidemment, pour animer tout ça, il faut faire de la montée en compétences, il faut trouver ou les bons recrutements ou les bonnes formations, etc. Mais il faut aussi faire de l'incentive. Une fois qu'on a les données, une fois qu'on sait objectiver les objectifs de décarbonation, par exemple, et comment on accompagne les équipes, comment on récompense les efforts de chacun là-dessus. Donc le message que je veux juste porter, c'est ce que l'étude nous dit pour l'instant, c'est vraiment tous les métiers sont impactés et tous ont un rôle majeur. C'est pas un petit rôle, quel qu'il soit, il est majeur, mais avec des effets très différents.
Merci beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a identifié la transformation possible dans notre métier, enfin les transformations possibles dans notre métier, comment est-ce qu'on peut les mettre en place? Par quoi est-ce qu'on commence? Alors, quand on a préparé la conférence, vous avez tous parlé de formation, donc on va parler surtout de ce levier-là, mais si vous jamais vous voyez d'autres leviers, n'hésitez pas à insister dessus. Marciane, dans l'étude que tu as menée au sein du Shift Project, donc vous avez mené une étude sur l'évolution des syllabus, donc vraiment des formations. Et le Shift avait mené une étude similaire sur les écoles d'ingénieurs avant. Pour toi, comment est-ce qu'on doit adapter les formations? C'est quoi les éléments indispensables quand on fait une formation sur les sujets écologiques?
Oui. La manière dont on répond à ça, donc c'est vraiment une réponse qu'on adresse aux directions d'établissement, aux directions de programme et aux professeurs. Donc on est sur vraiment une vision très enseignement supérieur. On est encore avant la phase très concrète et encore une fois très terrain, qui a plus à ma gauche. Et donc la manière dont on répond à comment transformer les formations, on répond de manière différente. La première, c'est il faut des connaissances et des compétences. Des connaissances notamment pour bien comprendre les enjeux de la transition, parce qu'on dit beaucoup au Chief Project que pour bien résoudre un problème, il faut d'abord bien le comprendre. Donc ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on propose, donc comprendre les enjeux écologiques, mais aussi comprendre comment c'est lié avec les systèmes dans lesquels vont évoluer les futurs professionnels que sont les étudiants, en quoi c'est lié avec le système économique, avec nos systèmes politiques, avec nos systèmes culturels, etc. Donc bien comprendre tous les enjeux et aussi acquérir des compétences pour ensuite justement savoir, typiquement dans son métier, savoir aller plutôt du côté de résoudre le problème ou en tout cas y contribuer. Et dans les compétences, en fait, on propose 4 grands blocs de compétences. Et le premier, c'est d'avoir une vision, de développer une vision systémique et interdisciplinaire. Et donc ça rejoint beaucoup la question de bien comprendre le sujet, donc bien comprendre les interconnexions entre les différents enjeux, et une vision interdisciplinaire parce qu'on a besoin, typiquement dans des formations en gestion, d'aller au-delà de la pure gestion, mais d'avoir aussi des sciences naturelles, des sciences de l'ingénieur, d'autres sciences humaines et sociales. De la même manière, du côté des formations d'ingénieurs, on dit qu'il faut aussi qu'ils acquièrent davantage de sciences humaines et sociales. Donc il y a vraiment ce besoin d'articuler les disciplines. Donc d'abord, cette grande compétence qui est peut-être la plus importante, et ensuite qui se décline en des choses de l'ordre de ce que je disais tout à l'heure, développer un esprit critique. Et ensuite, on entre vraiment plus dans qu'est-ce que ça veut dire pour les futurs professionnels. Donc il y a tout l'enjeu de repenser les outils de la gestion. Les outils de prise de décision. Et puis ensuite, des choses davantage de l'ordre de l'action, et du coup de l'action collective notamment, et typiquement des choses de l'ordre d'embarquer des collectifs, ce qui est vraiment quelque chose qu'on aime, parce que de lancer des dynamiques collectives, ça fait partie des choses nécessaires pour transformer les organisations, aussi de faire preuve de créativité, d'innovation pour expérimenter, pour tester des choses nouvelles. Voilà, là on va être plus dans l'action. Donc voilà nos 4 grands blocs de compétences. Et donc il faut des connaissances, des compétences, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un responsable de programme ? Concrètement, c'est quoi le parcours de formation, le cursus qu'il faudrait dans l'idéal ? C'est assez simple en fait ce qu'on dit, c'est largement partagé maintenant, notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'il faut des cours dédiés, encore une fois, pour bien comprendre les enjeux. Et ensuite, il faut que tous les cours... et c'est notamment le cas pour les cours de gestion, pour les cours de sciences de l'ingénieur. Ça va être différent quand on parle de littérature. On va pas être sur les mêmes enjeux, mais il faut que tous les cours intègrent les enjeux écologiques. Et là, quand on est sur des cours très professionnels, typiquement pour la gestion ou pour les formations d'ingénieur, il y a vraiment cette question de ensuite être capable de transformer son métier, de transformer ses pratiques. Et ça passe pas par avoir des cours du type business as usual. Et à côté des cours, on a bien compris les enjeux. Évidemment, il faut faire le lien entre les deux. Et c'est en fait pour les établissements, pour les professeurs, c'est l'étape la plus difficile à atteindre. Mais c'est ce vers quoi on essaye de tendre.
Merci, Vinciane. Pendant la préparation, Paul, tu nous as parlé d'une bonne pratique que tu as observée chez les collectifs, qui est la création d'une fresque spécifique par métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi est-ce qu'une telle initiative a été menée ? Et comment est-ce qu'elle a été mise en place ? Qui a été impliqué ? Quelles ont été les étapes de tout ça ?
Ouais. Moi, j'aime bien repartir de la notion de sens au travail. C'est la plupart du temps pour ça que les membres de collectifs s'engagent au départ. Comment aligner leur travail avec leurs convictions personnelles, et donc comment aligner leurs convictions personnelles et leurs convictions professionnelles, et comment être plus eux-mêmes au travail, ou en tout cas dans le cadre de leur collectif. Ils vont donc réfléchir à comment leur métier et leur entreprise doit évoluer par la suite, s'ils veulent la transformer. Dans un secteur en particulier, je cite cet exemple, mais j'en aurai un deuxième qui traitera un peu plus, d'autres choses que de la formation. Dans le secteur de l'assurance, on a un collectif qui réfléchissait à comment faire évoluer ce métier qui va être grandement chamboulé par la crise climatique. Et à force de discussion, ils se rendaient compte que les arguments, les enjeux et les risques méritaient d'être exposés plusieurs fois, et en tout cas étaient souvent les mêmes, et donc il fallait arriver à trouver un outil pour mieux exprimer ce qui se retrouvait à expliquer régulièrement et pour embarquer tout le monde sur les mêmes, avec le même référentiel. Ils ont créé une fresque métier de l'assurance qui s'appelle la fresque de l'assurance responsable, avec l'idée de standardiser un peu plus ces discussions, arriver à aussi les canaliser dans un cadre, donc pouvoir déployer cet outil. On peut plus difficilement déployer des discussions informelles, avoir un atelier un peu clé en main, c'est plus facile. Et pour impacter, au-delà de cette entreprise-là, tout le secteur, c'est l'idée. Nous, chez les collectifs, on est très contents qu'il y ait cette initiative qui se soit développée. Et on incite, à partir de ce cas d'école, à faire en sorte que d'autres collectifs créent leur propre fresque métier pour pouvoir faire évoluer leur propre métier. Un autre exemple que je pourrais citer, qui ne correspond pas uniquement à de la formation, c'est que dans le cadre d'actions que peut mener un collectif, ils peuvent impacter les métiers d'autres personnes. Typiquement, dans un collectif en banlieue parisienne, on a des ingénieurs qui travaillent dans un centre de recherche industrielle qui réfléchissent à la fois, dans le cadre de leur collectif, à l'empreinte carbone du site, mais aussi à l'évolution de leur métier dans la recherche, et plus précisément à l'évolution des procédés. Ça va directement impacter le travail de tout un tas de métiers en usine, mais pas que, aux achats, etc. C'est le cadre d'un collectif qui permet aussi ces réflexions et qui permet des ponts potentiellement avec ces métiers pour directement en parler sur le terrain. Nous, on pense que c'est comment ça peut commencer, en fait, l'évolution de ces métiers. Ça part de discussion, ça part de ressentir un besoin sur le terrain des différents membres de collectifs. Et en fait, un collectif, la manière dont il décide de mener une action, c'est très simple. Ils se rendent compte qu'il y a un besoin et ensuite ils vont aller discuter avec les autres parties prenantes internes, les autres membres du collectif, les autres salariés, la direction RSE, pour avancer et mener à bien cette action qui va prendre X temps. Ça dépend de la complexité et de l'ambition derrière. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit dans le réseau et c'est des dynamiques vraiment géniales.
Merci, Paul. Ambroise, du coup, depuis la création des Nouveaux Géants et puis avant encore de tes autres expériences de formation, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu voudrais partager au sujet de la formation dans l'évolution des métiers dans le cadre de la transition écologique ?
Il y a des bonnes pratiques de formation en général, mais il y en a en effet certaines qui sont vraiment spécifiques à ce sujet, qui est pas neutre. Le premier, tu l'as dit, hein, c'est vraiment comprendre les enjeux, c'est ce que certains appellent la sensibilisation, mais comment on le redescend jusque dans l'entreprise et notamment comment on le redescend jusqu'au business model. Je fais une toute petite pub, mais on fait une conf là-dessus demain, sur le changement des modèles d'affaires, est-ce que ça joue sur les métiers. Mais vraiment, c'est compréhension des enjeux, parce qu'il faut donner du sens. Et ensuite, on redescend, donc on est parti de l'enjeu climat, du secteur, de l'entreprise, et on descend jusque la personne, son rôle, comprendre son rôle chacun, donc comment on explique à chacun son rôle. Donc là, on n'est toujours pas dans de la formation proprement dite, hein, mais c'est essentiel de passer par là. La troisième chose, c'est de déconstruire les freins. Souvent, moi, je suis financier à CSRD, c'est pas pour moi, ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est du vécu. Non, en fait, et surtout, non seulement c'est pas une contrainte de plus qu'on vient vous mettre. Mais c'est pas difficile, ça va utiliser les mêmes compétences que vous avez déjà dans votre métier, juste vous allez prendre des nouvelles lunettes, vous allez utiliser des nouvelles valeurs, mais c'est pas difficile, donc il faut déconstruire ça. Il faut amener le fait que c'est enthousiasmant, parce que toutes les équipes qu'on a accompagnées, d'un point de vue RH, c'est la folie. Parce qu'en fait, un, on résout la dissonance cognitive, et deux, on se lance sur des projets qui sont nouveaux, qui sont pleins de sens, et en fait on est profondément en lien avec quelque chose qui est plus grand que soi quand on transforme son métier comme ça, donc c'est assez fort. Et enfin, il faut en effet développer les compétences, mais on vit à une époque où la formation, on n'en a pas le temps, c'est pas possible, et donc nous, ce qu'on suggère de faire, c'est de former uniquement sur des cas pratiques réels. Parce qu'il y a se former sur des études de cas ou des cas pratiques, et se former sur des cas pratiques réels. Les cas pratiques réels, ça veut dire que concrètement, en fait, le temps de la formation est un temps de travail, n'est plus un temps de pause où pendant deux jours je suis en formation, je ne suis pas dispo. C'est un temps où je fais avancer mes projets concrets, et parce que je fais des projets, j'apprends sur le terrain. Donc, et ça, c'est important pour l'enjeu de transition écologique, parce qu'il y a tellement de freins émotionnels, on ne se forme pas à la data. On se forme à contrer la fin du monde. C'est comme ça que les gens peuvent le recevoir. Et donc, dès qu'on aborde le sujet, évidemment, émotionnellement, c'est pas neutre. Donc, si on met l'émotion ou l'humain sur le côté, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on pense que sur l'enjeu écologique, il faut vraiment
voilà, se former avec cette grille, comprendre ses enjeux, comprendre son rôle, faire sauter les freins. Il faut vraiment prendre le temps de ça. Donc, ça je donne un petit exemple, ça nous est arrivé en formation d'arriver, il y avait beaucoup de freins. La passe managériale a été mal faite sur l'équipe qu'on devait accompagner. Et sur les 4 heures du temps, on faisait plusieurs modules de 4 heures. Sur les 4 heures, on a pris 1h30 au démarrage. Donc pas de formation, on n'a pas du tout parlé du sujet pour lequel on était venu. On a passé 1h30 à pourquoi vous ne voulez pas y aller, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous freine, etc. Et derrière, on a enchaîné pendant 3 mois et c'était génial. À la fin, ils ont fait des projets canons, c'était l'éco-conception en l'occurrence. Mais alors qu'ils ne voulaient pas du tout au démarrage, parce qu'il n'y avait pas le sens, il n'y avait pas l'autorisation, il y avait toute manière, on n'aura pas le budget. Et finalement, en fait, quand on déconstruit, on y arrive. Donc il faut prendre ce temps-là. Voilà, et évidemment, se faire sur des projets, bon, ça, ce n'est pas juste pour la transition écologique. Moi, je fais de la formation par projet réel depuis toujours. Donc je crois qu'à ça. Voilà.
Merci. Peut-être en guise de conclusion, si dans la salle, il y a des personnes qui veulent réinventer leur métier, quelles questions tu leur conseillerais de se poser ?
Beaucoup.
En quelques phrases.
Je vais faire rapide. La première, c'est revenir à la notion d'utilité. Mon métier aujourd'hui, à quoi il sert et quelle roue il entraîne. C'est-à-dire, si je fais plus mon métier, qu'est-ce que ça crée et ensuite extrapoler en entreprise, etc. Mais vraiment, en quoi mon métier il est utile, en fait. Deuxièmement, sur quoi j'ai la main. Parce que souvent, on se dit, bah oui, mais moi, je suis un rouage d'un machin, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si, on a la main sur un budget, parfois, sur une équipe, sur une audience. Par exemple, quand on est dans la com, on a la main sur un produit, sur des process, sur des collaborateurs. Donc, voilà, sur quoi j'ai la main, c'est la deuxième chose qui va se poser. Ensuite, avec qui j'ai envie d'avancer. Ça peut être des prestataires, mais ça peut être des concurrents, ça peut être des organismes sectoriels, ça peut être l'État, ça peut être des gens dans l'entreprise. Mais voilà, des gens qui vont m'apprendre, qui vont m'inspirer, qui vont m'aider à faire plus vite. Voilà. Et la dernière question que je vous propose et que je pense est importante, tout ça va demander de l'énergie, c'est un long chemin. Et à la fin, se poser la question, quand je l'aurai fait, de quoi je serai profondément fier ? Si on va chercher un peu dans les tripes, qu'est-ce qui va m'animer sur ce chemin pour que je reste motivé tout le long, quoi.
Ouais, que initialement, t'avais posé une question un peu plus large. Si, à l'inverse, tu as quelqu'un qui est responsable RSE ou responsable de formation, quelles questions est-ce qu'il peut se poser pour embarquer son entreprise dans l'évolution des métiers de son entreprise?
Ça, on l'a vu un petit peu dans l'étude. On a commencé à interviewer pas mal de RSE. Il y a plusieurs manières de prioriser les métiers que vous allez accompagner, parce que vous n'avez pas toujours le temps ou le budget ou l'énergie pour accompagner tout le monde d'un coup. Soit il y a de la logique chronologique simple, c'est-à-dire... je peux pas accompagner un métier sans que le suivant est fait. Enfin, voilà, il y a des logiques. Voilà. Deuxièmement, il y a une logique d'influence. Il y a des métiers qui vont plus rayonner. Des logiques d'essaimage, c'est un peu la même chose, mais la différence, c'est que là, on ne regarde pas le pouvoir d'influence, mais juste le nombre. Là, ils sont très nombreux. Donc, si je fais cela, ça va essaimer quand même un peu plus vite. Et puis après, des logiques de contexte, la législation peut pousser un peu plus fort un métier, il y a des budgets dans certains métiers qu'il n'y a pas dans d'autres, il y a un intérêt d'une équipe en particulier, parce qu'il y a un collectif qui s'est lancé, on prend la balle au bon, quoi. Il y a plusieurs manières, et puis après, les logiques de métier, impact direct, indirect, etc. Et pour donner peut-être un petit élément de réponse, aujourd'hui, nous, ce qu'on a vu beaucoup, c'est les métiers de la R&D, produits, etc., et de la performance qui sont souvent priorisées dans les entreprises. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire, mais pour ceux qui sont sensibles à ce qui se passe dans le marché, c'est ce qu'on a regardé.
Merci. Je vous propose qu'on prenne un temps de questions et je vais peut-être passer le micro s'il y a des questions. Sinon,
Bonjour. Alors déjà, merci pour votre intervention très intéressante. Quand est-ce que va sortir cette très intéressante étude qu'on a tous envie de lire, je pense? Et puis, quand vous arrivez... Alors, j'avais en fait une question pour Vinciane et une autre pour Paul, pardon. Pour la partie plus formation, est-ce que vous avez aussi, sur le changement des syllabus, est-ce que vous avez aussi travaillé sur une partie executive education, entre guillemets, pour des gens déjà dans l'emploi et qui voudraient justement faire évoluer leur métier, rajouter ces modules, pas dans leur formation initiale? Et pour Paul, quand vous arrivez dans une... pour Ambroise, pardon. Quand vous arrivez dans une entreprise, justement... où il y a une volonté d'accompagner les collaborateurs pour l'évolution de leur métier. Est-ce que vous commencez par une cartographie des différents métiers, enfin, comme on... surtout pour des organisations complexes? Moi, je travaille dans un groupe, on est 50 000. Voilà. Donc, par où on commence pour cartographier les différents métiers, justement, et ensuite aboutir à une priorisation?
Je reprends le micro. Merci pour la question, parce que justement, en fait, on est en train de... Enfin, on va lancer prochainement une étude sur la formation continue. Et donc sur la transformation, en fait, sur la mobilisation des acteurs de la formation continue. Donc comment est-ce qu'ils peuvent se saisir des sujets de transition? Qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qui reste à faire? Et c'est quoi les leviers d'action à disposition, aussi bien des formateurs, pas proprement parler, que à disposition des acteurs institutionnels, des financeurs de la formation continue, etc. Là, par contre, on est... Enfin, dans Executive Education, je vois vraiment la question de les mêmes métiers là, dont je parle à l'instant, mais du côté de la formation continue. À ce niveau-là, en fait, ce ne sera pas spécialisé sur des métiers, ce sera transsectoriel et pas spécialisé sur des métiers en particulier, même si ça pourrait constituer une étude de cas, mais rien de sûr. Donc là, pour le moment, ce qu'on dit à la formation continue des... souvent des écoles de management... parfois parce qu'on a travaillé aussi avec leur pendant public, mais là en l'occurrence ça va être souvent les écoles de management, c'est que ce qu'on a produit en fait ça peut s'appliquer aussi dans des cours d'executive education, même si c'est pas le même, même si c'est pas exactement la même approche en format un peu plus court évidemment.
Pour la question de la diffusion d'études, je pense qu'on parlera un tout petit mot de conclusion après. Et pour la question de... Enfin, on arrive dans une entreprise à 50 000 personnes. Nous, on a travaillé des entreprises de ce type-là. Alors, ça dépend. Soit il y a un sujet qui est acté, il y a un codir qui a posé, et donc on va dans une direction. Sinon, comme je le disais un peu, ça va. Enfin, on peut pas. Il n'y a pas un code de. Il faut démarrer par tel endroit, puisque il peut y avoir des éléments externes. Comme j'ai dit, de type législation qui peuvent arriver embarquer tout le monde. Il peut y avoir des équipes qui sont vraiment motivées et c'est pas du tout rationnel, mais il faut prendre la balle. Ça paraît pas le plus gros du bilan carbone, faut y aller. Nous, quand on arrive dans une entreprise, on pose la question de l'état des lieux. Souvent, maintenant, il a été fait sur les impacts. Donc, on part de cette carte-là. Et ensuite, ce qu'on demande assez systématiquement, c'est un diagramme de l'organisation.
Un organigramme.
Un organigramme, voilà, c'était pas très loin. Un organigramme. Pour comprendre, en fait, comment fonctionnent les logiques d'influence et du coup, par où il est plus pertinent de démarrer. Et soit, nous, on a la réponse et on a des formations adaptées, on vous dit... aller là-dessus, soit on ne les a pas encore, et soit nous co-construit souvent avec des clients quand on n'a pas les formats, ou alors on redirige vers des gens qui l'ont déjà développé et qui font ça super bien. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais ça rejoignait ce que je disais sur la priorisation, qui en fait dépend de pas mal de facteurs. Quoi.
Une autre question? Profitez-en.
Oui, bonjour, merci à tous les trois pour votre table ronde. Moi, j'ai une petite question qui est plutôt côté collectif et côté formation. Donc, je fais partie d'un collectif de salariés engagés pour la transition de notre entreprise, qui fait partie des collectifs. On est dans une société de 3000 personnes. On l'a montée il y a un an. On a une centaine de personnes qui sont très actives. Et en fait, on se rend compte quand même qu'on ne représente pas tous les métiers de l'entreprise. Et surtout, on ne représente pas toutes les fonctions. On est très, très engagé sur, les cadres urbains. Et pourtant, ceux dont l'activité fait le bilan carbone de notre entreprise sont plutôt des techniciens. opérationnels sur le terrain. Et c'est eux qu'on cherche à embarquer. Et la question, c'est comment, quel levier on peut utiliser, en plus de ceux que vous avez cités, pour aller les embarquer.
Merci. On a vu un certain nombre de bonnes pratiques dans le réseau qui pourraient être intéressantes de tester. Le point commun de toutes ces bonnes pratiques, c'est d'aller parler, d'aller se rendre compte de ce qui se passe dans les équipes. Moi, j'ai vu une bonne pratique en particulier dans le secteur industriel, qui est ouvrir un espace dans lequel on va pouvoir discuter de ce que la crise climatique, le réchauffement climatique, etc., nous faire sentir. On a en particulier un outil qui s'appelle le quart d'heure climat, qui a été développé par un des membres du réseau, qui consiste à ouvrir un espace. Tu viens quand tu veux dans mon bureau, on parlera un quart d'heure de ça, et je te montrerai, je résume, une courbe qui représente l'acceptation du sujet. Et ensuite, toi, tu vas me dire ce que ça te fait ressentir, où est-ce que tu mettrais tel graphique, etc. Enfin, en fait, un cadre de discussion qui permet d'ouvrir tout ça. Et à la fin, le call to action de ce petit quart d'heure, c'est, écoute, on est un certain nombre de collègues qui se réunissent régulièrement pour en parler. Viens, tout est ouvert. Et il faut insister sur le fait qu'il y a des gens qui s'installent, s'engagent dans un collectif pour des actions très variées. Il y en a, ils veulent juste supprimer les gobelets des réunions. Il y en a d'autres, ils veulent transformer complètement leur entreprise, et c'est tout à fait compatible d'avoir des gens qui s'engagent pour des raisons différentes. Et ouvrir cet espace et pouvoir permettre aux gens de venir, c'est crucial. Deuxième chose, c'est, j'insiste, et c'est quelque chose d'important, les contraintes horaires et managériales ne sont pas les mêmes en fonction des métiers. Nous, on a des collectifs sur des sites industriels où c'est honnêtement plus compliqué de se réunir régulièrement parce que les horaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde, par exemple, et la pause du midi ou le soir ne fonctionne pas. Il faut arriver à travailler autour de ça. Et il y a des exemples dans le réseau de manière de fonctionner, et le plus simple, et nous c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est d'aller parler aux autres collectifs, voir comment ils ont fait. En particulier, je pourrais te mettre en relation avec quelques autres collectifs qui ont travaillé là-dessus. Nous, chez les collectifs, on aide les créateurs collectifs, mais on aide aussi les collectifs existants à créer des dynamiques trans-collectifs, créer des actions communes, mais aussi à se mettre en lien. Et on accompagne aussi pour créer un cadre entre les salariés, le collectif et la direction. Et c'est typiquement une autre manière de fonctionner. Je pense que plein de gens ont peut-être des idées en interne sur comment arriver à créer ce lien, et surtout les premiers concernés.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Nous, on travaille en effet plutôt sur les métiers du siège pour le moment. Il existe des organismes de formation sur des métiers de terrain qui sortent tous les jours pour des choses très chouettes. Moi, un exemple que j'aime bien, par exemple, c'est dans les métiers du retail, les vendeurs deviennent des acheteurs pour faire de la seconde main. Donc ça, il commence à y avoir des bootcamps, des choses qui sortent là-dessus. Et de manière générale, notre expérience, donc c'est pas exactement le même métier, mais je pense que ça s'applique aussi, c'est le sponsoring. Si vous n'arrivez pas à avoir les techniciens en direct, qui sont les sponsors clés à aller chercher, parce que nous, voilà, chaque fois que ça s'est très bien passé dès le début, c'est que les sponsors clés étaient là, et on a même eu une formation où le DG à la fin est venu féliciter les équipes, etc. Et non seulement féliciter, mais leur dire c'est bien, mais c'est pas assez. Donc ça, c'était caviar.
Et j'ajoute un tout petit truc sur les actions que j'ai citées. Nous, on répertorie toutes ces actions sur notre site, ça s'appelle l'Atlas des actions, et le quart d'heure climat, il y a beaucoup plus d'infos dessus sur notre site, entre autres.
Alors, on me fait signe d'arrêter, je crois. Non, ça va ? Ok. Et s'il y a une dernière question, sinon je vais conclure. Parce qu'il est midi et quart. À ma montre. 20. Ok. Une question urgente ? Non, ça va ? Ok. Donc, merci beaucoup à tous. En effet, pour l'étude, donc là, vous avez un QR code qui s'affiche. Si jamais vous voulez recevoir les résultats de manière certaine, je vous invite à vous inscrire. Pour les deadlines, l'étude va sortir entre janvier et mars dans son format complet. Dans son format, on va avoir des livrables intermédiaires probablement en novembre. C'est assez relatif en fait à notre capacité à avoir suffisamment d'entretiens, parce que c'est une étude qui est basée sur des entretiens qualitatifs. Et donc on recrute actuellement des responsables RSA qui voudraient bien parler de ces enjeux-là avec nous. Donc si jamais, n'hésitez pas à vous pouvez le mettre directement sur ce QR code ou à passer nous voir, enfin il n'y a pas de problème. J'en profite. Donc, en effet, demain, on a une autre conférence à la même heure sur la transformation des modèles d'affaires, les enjeux pour les dirigeants et pour les métiers. Et passez nous voir au centre 19. Voilà, c'est la zone orange. Merci beaucoup.